les femmes au fil de l'histoire.
Une coproduction Marche mondiale des femmes et Radio BLV.
Souvenons-nous, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France libre se doit d'accorder enfin l'égalité politique aux femmes qui ont risqué leur vie pour le pays. C'est le 21 avril 1944 que les femmes françaises deviennent électrices et éligibles.
Notre chronique d'aujourd'hui nous amène dans les années 1960. Les femmes sont représentées à l'Assemblée nationale. Très peu, bien sûr, aux alentours de 2%. Le droit des femmes sera-t-il mis en avant ? C'est toujours grâce à notre livre de référence de Titiou Lecoq, « Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire oubliait les femmes ?», que nous vous présentons la conquête des droits des femmes à disposer de leur corps, de leur vie, lors de ces années 1960.
La page de la guerre s'est tournée. Mais c'est une époque qui est encore marquée par la mise en place de l'État-providence et cette époque encourage les naissances. C'est le baby-boom. La femme doit être une mère de famille. Et pour cause, il faut repeupler la France. Alors, ce qui va être mis en avant, ce ne sont pas les droits des femmes, mais les droits de la famille. La citoyenneté sociale pour les femmes est la suivante. Elles sont dépendantes de leur conjoint et de l'État. Par exemple, les femmes mariées ne peuvent travailler que si le mari l'accepte. Et oui, cela peut paraître difficile à concevoir pour beaucoup d'entre nous de nos jours. Mais c'est seulement au moment de la loi votée en 1965 que les femmes mariées peuvent travailler sans l'autorisation de leur époux. Et aussi, ouvrir un compte en banque en leur nom propre. Jusque-là, si les femmes célibataires bénéficiaient d'une certaine autonomie, les femmes mariées ne pouvaient ni signer un chèque, ni ouvrir un compte en banque. C'est un début d'indépendance économique des épouses, un timide début d'indépendance. Depuis ce jour, les Françaises peuvent gérer leurs biens propres et exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari.
Une petite parenthèse. Une loi a été votée en 1972 posant le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes. Et pourtant, les femmes d'aujourd'hui gagnent toujours 27% de moins que les hommes. Et la lutte continue. Mais revenons aux années 60.
À cette époque, les femmes sont avant tout des maîtresses de maison qui gèrent et vivent dans leur intérieur. S'ensuit une grande solitude des femmes. Elles n'ont pas de vie autonome. Elles n'existent pas en tant qu'individu, mais en tant que compagne ou mère.
Et noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
On peut citer le livre de Betty Friedan, figure importante du féminisme aux États-Unis, La femme mystifiée, en 1963. Tu peux nous en dire un mot ?
Oui, elle décrit ce qu'elle baptise l'indéfinissable malaise des femmes américaines. Bon, bien sûr, elle s'intéresse à celles qui sont diplômées, qui ont fait des études supérieures, qui sont mariées et qui se retrouvent compagnes, mères, sans autre évolution possible, à moins de sacrifier leur famille. Donc, sans vie propre, ce qui est source d'une grande souffrance, d'abord silencieuse, mais qui ne durera pas.
En France, c'est la même chose ?
Oui, à quelque chose près. Les femmes en France vont sortir de ce gros malaise sociétal en engageant la lutte pour le droit à l'avortement, le droit à la contraception, le droit à disposer de leur corps, le droit de mener leur propre vie. Elles veulent échapper à leurs conditions, à leur solitude.
Rappelons qu'à cette époque, face à une grossesse qu'elles ne désirent pas, les femmes se mettent en quête de ce qu'on appelait les faiseuses d'anges. Et elles se retrouvent à avorter dans des conditions dramatiques et souvent traumatisantes. Lisez l'événement. C'est le récit autobiographique terrible d'Annie Ernaux, l'écrivaine. À cette époque, l'avortement est puni par la loi, rappelons-le. Les femmes se battent encore Et encore, elles obtiennent le droit à la contraception en 1967. La pilule.
Obtenir le droit à la contraception, c'était en 1967. C'est pas si loin quand même. Mai 68 se profile. Ce courant va-t-il aider à la conquête des droits? Je pense au droit à l'IVG.
Si je vous dis que les femmes participent massivement aux événements de mai 1968, ça ne vous surprend pas. Mais écoutez bien, si je vous dis qu'elles sont absentes des images et des sons, qu'elles ne sont pas invitées à aucune table de négociation, bref, qu'elles sont invisibilisées, ça vous étonne? Il faut attendre 1971 pour que la bagarre pour le droit à l'IVG passe sur le devant de la scène avec le manifeste des 343 femmes qui sera appelé le manifeste des 343. 343 femmes célèbres y affirment publiquement ce qu'elles ont dû faire clandestinement, puisque hors la loi, avorter.
On y retrouve entre autres Simone de Beauvoir, Christine Delphi, Marguerite Duras, Françoise d'Aubonne, Ariane Mouchkine, Agnès Varda, Monique Wittig et encore bien d'autres.
C'est grâce au procès de Bobigny, le célèbre procès de Bobigny, que l'opinion publique bascule en faveur du droit des femmes en ce qui concerne l'interruption volontaire de grossesse. Et c'est Gisèle Halimi, avocate qui, durant le procès, revendique son aspect politique. Donc, de plus, elle refuse le huis clos au tribunal. Elle en appelle à l'opinion publique. Elle politise ainsi le privé en mettant la question de l'avortement au cœur du débat public.
Peux-tu nous parler de la teneur de ce procès ?
À ce procès, on juge une jeune fille de 16 ans qui a avorté suite à un viol. Trois autres femmes, celles qui ont aidé à cet avortement, sont jugées également, dont la mère de la jeune fille. Gisèle Halimi fait une plaidoirie remarquable. Impossible ici de ne pas vous lire quelques extraits, courts malheureusement, mais quelques extraits quand même, tant sa plaidoirie est brillante, touchante, pertinente. Elle commence par se présenter, en tant qu'avocate, bien sûr, mais pas que.
Monsieur le Président, messieurs du tribunal, je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour un parfait accord entre mon métier qui est de plaider, qui est de défendre, et ma condition de femme.
Elle poursuit en convoquant une audience bien au-delà des portes du tribunal.
Je m'identifie précisément et totalement à ces femmes que la loi appelle des complices. Avec ces femmes présentes à l'audience, avec ces femmes qui manifestent dans la rue, avec ces millions de femmes françaises et autres.
Elle présente le réel objet de ce procès, pour elle, militante de la cause des droits des femmes.
Et si je ne parle aujourd'hui, messieurs, que de l'avortement et de la condition faite à la femme par une loi répressive, c'est moins parce que le dossier nous y contraint que parce que cette loi est la pierre de touche de l'oppression qui frappe la femme.
Le lien est fait avec le patriarcat. Ensuite, elle continue sur cette condition de la femme qui n'a rien de naturel.
On fabrique à la femme un destin biologique auquel aucune d'entre nous ne peut ou n'a le droit d'échapper. Notre destin à toutes, c'est la maternité. Un homme se définit, existe, se réalise par son travail, par sa création, par son insertion sociale. Une femme, elle, ne se définit que par l'homme qu'elle a épousé et les enfants qu'elle a eus. Telle est l'idéologie du système que nous récusons.
Marie-Josée et Noémie, je vous interromps juste un instant pour dire que nous consacrerons une chronique tout entière à ce thème de la place des femmes induite par la société patriarcale et capitaliste.
Oui, oui, c'est important, Françoise. Et là, justement, Gisèle Halimi enfonce le clou sur ce déséquilibre construit par cette société d'hommes. Écoutez.
Ces quatre femmes, devant ces quatre hommes, Ne croyez-vous pas que c'est là le signe de ce système répressif, oppressif, que subit la femme ? Est-ce que vous accepteriez, vous, messieurs, de comparaître devant un tribunal de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps ? Cela paraît démentiel.
À la fin de sa plaidoirie, elle pèse de tout son poids de femme, des femmes qui se sont mises en marche, comme elle dit. Et c'est vrai que les manifestations sont nombreuses en ce jour du 8 novembre 1972. Elles pèsent sur la décision du tribunal de façon déterminante.
Ce jugement, messieurs, vous le savez, je ne fuis pas la difficulté et c'est pour cela que je parle de courage. Ce jugement de relax sera irréversible. Et à votre suite, le législateur s'en préoccupera. Nous vous le disons. Il faut le prononcer. Parce que nous, les femmes, nous, la moitié de l'humanité, nous nous sommes mises en marche. Je crois que nous n'accepterons plus cette oppression. Messieurs, il vous appartient aujourd'hui de dire que l'ère d'un monde fini commence.
Quelle phrase ! L'ère d'un monde fini commence. Et c'est ce qui se passe dans les années qui suivent. Nous ne pouvons que vous conseiller de lire la plaidoirie de Gisèle Halimi.
Marie-Claire Chevalier, la jeune fille dite coupable d'avoir avorté, est finalement acquittée. Les femmes continuent de s'organiser, écrit en 1973 le MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Une première loi légalise l'IVG en 1974, présentée par Simone Veil. Le vote définitif a lieu en 1979. Le remboursement par la Sécurité sociale de l'IVG est conquis en 1982, sous le ministère d'Yvette Roudy. Ces lois ont changé la vie des femmes, mais l'histoire dans les livres ne les retient pas. Ce sont toujours les grands hommes qu'on célèbre. Nous avons fait une place de reine à Gisèle Halimi dans cette chronique, tant elle a joué un rôle fondamental dans cette conquête du droit à disposer de son corps. Mais il y a tant de femmes à vanter, oubliées par l'histoire écrite par les hommes. Qui connaît aujourd'hui Simone If, par exemple, instigatrice du manifeste des 343 ? C'est elle qui cofonde, en 2014, le collectif féministe contre le viol. Et elle est présidente du mouvement français pour le planning familial. Nous aurions pu aussi lui consacrer une chronique, et à tant d'autres.
Des droits fondamentaux ont été conquis par les femmes. Nous venons de le voir. Actuellement se joue la bataille contre les violences faites aux femmes. Il s'agit encore de défendre nos corps, nos choix, notre liberté, de ne pas subir les contacts non désirés, des évocations sexuelles non sollicitées. Nous voulons vivre comme des êtres humains, à part entière, libres de notre corps, de notre vie, de nos choix. Actuellement, la pensée sexiste est-elle toujours aussi vivace ? C'est ce dont nous allons parler lors de notre prochaine chronique. Merci à vous toutes et tous.
Rapidement, une petite annonce, une causerie sur le livre de Titu Lecoq, celui qui nous sert de guide dans nos chroniques. Le livre des grandes oubliées de l'histoire. Une causerie sera organisée le 15 avril au Cause Toujours à Valence, au 8 rue Gaston Ray. À 18h30. Je répète, le 15 avril à 18h30. Merci à vous.
Pour se faire entendre, la Marche mondiale des femmes a créé une batucada. Nous vous invitons à venir nous rejoindre les dimanches de chaque mois, le dernier dimanche de chaque mois, de 10h à 16h. Plus nous sommes nombreuses et mieux on nous entend.
Peux-tu nous dire où se trouve cette rencontre du dimanche ?
Alors, c'est un roman. C'est à la maison de Saint-Nicolas. Comment elle s'appelle cette maison ?
La maison de quartier Saint-Nicolas.
La maison de quartier Saint-Nicolas, bien sûr, un roman.
Place voilà. Du chapitre.
Et c'est place du chapitre.
Merci.
C'est bien que siamo donne, paura non abbiamo, per morte nostri figli.
Les femmes au fil de l'histoire.
Une coproduction Marche mondiale des femmes et Radio BLV.